alors est-ce que je peux téléphoner à une copine à Mulhouse?
Allô?
Oui, mais pas des heures.
Merci. Hein.
Hey, t'as fait quoi?
Bah...
Un gros caca boudin, mes petits cochons.
Attends. 3, allez, j'ai hâte de te voir. Allez, gros 2, bisous. À très vite.
Très bien, ma chérie.
On ne raccroche pas ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de tourisme, de secrets de famille, de la nouvelle vague, de cinéma espagnol et peut-être même de l'île aux enfants. Avec Géraldine Chaplin à l'affiche de Dolores de Arena, un film pudique sur les relations entre une femme occidentale et une jeune prostituée occasionnelle en République dominicaine. Retour sur le parcours d'une actrice qui a su bien porter le nom de son père. Manu Farine.
De David Lean à Valérie Donzelli en passant par Pedro Almodovar, Robert Altman ou Carlos Saura. Retour sur le parcours polyglotte donc d'une actrice qui n'a jamais voulu se faire un prénom, et c'est Géraldine Chaplin qui le dit.
19h30, la chronique plutôt revue et corrigée par Thomas Clair. Ce soir, à votre programme, Thomas?
Point de vue.
Et image du monde? Non, un point de vue tout seul. 19h35, plateau télé avec Marion Sarrault qui signe Le Premier Été, un téléfilm sur un secret de famille ou comment retrouver la signature d'une grande dame de la télévision française formée à la nouvelle vague, Benoît Lagan.
Retour sur le parcours d'une réalisatrice née dans les cahiers du cinéma mais qui aura travaillé tous les genres télévisuels. Les shows de Maretti et Gilbert Carpentier, L'île aux enfants, les séries télévisées et bien évidemment les unitaires pour le service public.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre sur le son du jour et bien sûr surtout le supplément week-end de Benoît Lagan.
Notre combat aujourd'hui, c'est celui de la liberté d'expression. Il faut qu'il n'y ait pas de lien entre l'argent que nous donne l'État et ce que nous présentons sur scène. L'indépendance, c'est la condition sine qua non dans le théâtre. Le théâtre doit être provocateur, controversé, poser des questions. Ce dont j'ai plus peur, en fait, c'est de l'autocensure, que nous ayons tellement peur que cela affecte notre programmation. C'est ça ce que je redoute, plus que ce que Mme Regev peut faire elle-même.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et c'était le dossier d'hier.
Oui,
c'est
un son d'hier. Vous entendez Igal Ezarati, les directeurs du théâtre de Jaffa en Israël, qui présentent donc des pièces à la fois en hébreu et en arabe. Je l'ai interviewé hier et il réagissait à la situation extrêmement tendue entre la nouvelle ministre de la culture israélienne, Miri Regev, issue de la droite, et qui l'oppose donc au milieu culturel et en particulier au milieu du théâtre, puisqu'elle a gelé les subventions du théâtre Al-Midan de la ville de Haïfa, qui présenter une pièce dont elle jugeait qu'elle promeut le terrorisme et qu'elle a menacé de faire de même avec le directeur de troupe Norman Issa qui refusait de se produire dans les colonies en Cisjordanie. Elle a de manière plus générale menacé de couper les vivres à tous les artistes qui s'attaqueraient à l'image d'Israël ou de ses troupes armées. Des décisions qui ont poussé les directeurs de théâtre à descendre dans la rue dimanche dernier. Et hier, au moment où nous diffusions donc ce sujet précisément, la ministre de la Culture, Miri Regev, s'est exprimée à la radio israélienne et elle a déclaré à propos des artistes israéliens « Mais pour qui est-ce que je travaille ?» Je cite, voilà ce que je me demande pour une bande d'ingrats qui croient tout savoir, dont certains sont des hypocrites et qui m'empoisonnent la vie. Je savais pourquoi je ne voulais pas de ce poste. Je savais que je travaillerais pour des matu vu. Elle a par ailleurs ajouté que ses positions très claires sur la culture étaient en fait un avantage pour les artistes. Le fait que j'indique ma position à l'avance, dit-elle, profite aux artistes qui sont en train d'écrire des scripts et des pièces de théâtre. Ils savent à l'avance ceux qui vont recevoir des financements et ceux qui n'en recevront pas, en tout cas ceux qu'ils peuvent écrire. Un collectif qui réunit la plupart des directeurs de théâtre du pays ont prévenu qu'ils manifesteraient ce soir, en fait en ce moment même, car il y a la cérémonie des remises des prix du théâtre israélien à laquelle Miri Regev doit assister.
Des réactions, je vous voyais complètement très surprise et presque éclatant de rire, Géraldine Chaplin, à cette annonce.
Oui, je ris un peu pour pas pleurer, parce que vraiment, il y a même la météo, c'est des mauvaises nouvelles.
Mais alors là, c'est vraiment le cynisme poussé.
Incroyable.
Marion Sarrault.
Moi, je trouve ça totalement édifiant. De toute façon, je pense qu'un ministre n'est pas à même de juger ce qu'il faut faire ou pas faire. Je veux dire, c'est pas son rôle. Je veux dire, aider les artistes à essayer, au contraire, à dire ce qu'ils ont à dire. Bon, c'est vrai qu'il y a toute vérité n'est pas bonne à dire, et je pense que là, en l'occurrence, c'est assez flagrant.
Tout de suite, on poursuit donc ce journal de la culture du vendredi avec le supplément Week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et on ouvre ce supplément avec votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et l'actualité des séries télévisées aujourd'hui est très riche. Et du côté des États-Unis cette semaine, c'est le retour très attendu de la série policière qui a fait sensation l'an dernier, True Detective. Et puisque c'est une anthologie, le créateur Nick Pizzolatto reprend tout à zéro et installe de nouveaux personnages dans un lieu différent. Fini la Louisiane, désormais Los Angeles, une banlieue industrielle. Vinci.
This is me doing this. This is me.
This girl's gone missing. Nobody cares. The interior's poisoned, and suddenly we're worth billions. Nobody cares.
Alors, plusieurs critiques ont pu voir les trois premiers épisodes de cette nouvelle saison en avant-première. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ?
Eh bien, pour Pierre Langlais de Télérama, si l'intrigue de cette saison 2 est efficace et si les acteurs sont bons, cette nouvelle histoire serait, je le cite, « plus urbaine, moins atmosphérique, moins contemplative et donc moins fascinante ». Pour Olivier Joyard des Inrecuptibles, si la série possède toujours l'art de convoquer des visions étonnantes, voire hypnotiques, dans ces moments les moins forts, écrit-il, « True Detective ressemble désormais à un thriller comme les autres ». Alors pour vous faire votre avis, « True Detective 2 » sera diffusé dès lundi sur OCS, la chaîne d'Orange, 24 heures après sa diffusion américaine.
Et pendant ce temps-là, en France ?
Eh bien, mercredi dernier, l'actualité en France, c'était France 2 qui lançait avec un certain succès d'audience, sa nouvelle série Nina, une série médicale centrée sur une infirmière stagiaire de 39 ans. L'occasion pour la télévision française de tenter de renouer avec un genre de série sur lequel elle s'est souvent loupée, la série médicale. Alors pour en parler, j'ai contacté le critique Nicolas Robert. Il travaille pour la revue Soap et il connaît très bien le genre. Il a vu les deux premiers épisodes de Nina, voici ce qu'il en a pensé.
C'est une série dans laquelle on retrouve deux acceptions de ce que c'est que la médecine, plus sûrement dans les pays anglo-saxons que chez nous, c'est-à-dire que quand on parle de soigner, en Angleterre par exemple, on parle de to cure et to care, c'est soigner et prendre soin d'eux. Et ce qui est intéressant chez Nina, c'est que la dimension prendre soin des gens est vraiment au cœur en fait du projet, puisque le personnage principal, Nina Aubert, qui reprend sa carrière, sa vie professionnelle, a vraiment envie d'être au plus près des patients et les considère comme des êtres humains. Dans un pays comme la France, c'est intéressant parce que on est souvent confronté à de très bons techniciens. Par contre, pour tout ce qui est soins, c'est pas toujours évident. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de téléspectateurs. Et c'est quelque chose qui ressort assez bien à l'écran. Maintenant, le problème, c'est que Nina est confrontée à un problème assez récurrent pour toutes les séries médicales, pas seulement les séries françaises, c'est que c'est un genre hyper marqué. Il y a deux énormes succès quand on parle de séries médicales, c'est d'un côté Urgence et de l'autre Grey's Anatomy. Et c'est vrai que Nina, le problème que j'ai eu sur les deux premiers épisodes, c'est que qui dit veine sociale dit société. Et dans Nina, on voit pas vraiment quelle société ressort en fait. Où est la France dans cette histoire ? C'est encore une série qui, avec des personnages qui portent des blouses, mais qui a du mal à être la vraie série médicale, c'est-à-dire celle qui prend le pouls de notre société.
Alors pour vous faire une idée, notez que Nina passe donc tous les mercredis soirs sur France 2. Les deux premiers épisodes de la série sont rattrapables en replay sur le site internet de la chaîne publique.
Un commentaire peut-être, Marion Sarraud, vous qui avez signé. Non, mais pas sur la série, sur cette analyse des séries médicales. C'est un genre que vous n'avez pas travaillé, vous. Pourtant, vous en avez beaucoup travaillé.
Je pense qu'en général, moi, j'ai pas vu la série française, donc je peux pas juger. Les séries américaines sont extrêmement bien faites. D'ailleurs, c'est au point que, j'allais dire, quand vous allez à l'hôpital, on a l'impression que les gens ont envie de ressembler à ça. Quoi. C'est ça qui est formidable, je trouve ça drôle. Mais c'est bien, moi je les trouve pas mal. Urgence, je trouvais ça très bien.
Vous êtes spectatrice de séries télévisées, Géraldine Chaplin ?
Seulement quand ma fille travaille. C'est-à-dire dans Jeu de Trône, parce que ma fille travaillait.
Ah.
Et sinon, pas vraiment. Non.
On poursuit avec la brève revue de l'actualité culture et médias de la semaine. Et lundi, c'était Taxi.
Oui, le Figaro confirmait dans ses pages saumon que la société de Luc Besson, Europa Corp, après 10 ans de négociations, allait enfin pouvoir lancer à Marseille son projet de multiplex, soit 14 salles de cinéma dans le quartier d'affaires Euro-Méditerranée. La cour administrative d'appel vient en effet de rejeter le dernier recours du GC. Ce dernier contestait l'autorisation donnée à Europa Corp. Les travaux devraient démarrer début 2016.
Mardi, c'était Grand Palais et Boîte de Nuit.
Oui, au moment où s'ouvrait mardi l'événement Cinéma Paradiso, sous la verrière, la nef du Grand Palais, grand écran pour films cultes, restaurants et boîtes de nuit, bien le Parisien revenait sur la façon dont le Grand Palais gère son patrimoine, afin, comme l'explique Jean-Paul Cluzel, le président de la RMN, de financer certains événements pour en financer d'autres, car, dit-il, la subvention de l'État, qui concerne uniquement les galeries nationales et non la nef, a diminué de 24% en 4 ans. Il faut donc trouver des solutions.
Mercredi, c'était Pédopsie.
Oui, l'ensemble de la presse s'enthousiasme pour Vice Versa, le nouveau film des studios Pixar, qui imagine dans la tête d'une préadolescente plusieurs personnages représentant la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère. Eh bien, le quotidien La Croix a envoyé le pédopsychiatre Gilles-Marie Vallée voir le nouveau Disney, et ce dernier de confirmer que le film d'animation s'appuie avec justesse sur les théories cognitives et non psychanalytiques. Les enfants et les préados vont y voir, dit-il, le récit de leur propre aventure intérieure, et les parents mieux comprendre les réactions de leurs enfants. Merci, Dr Pixar.
Et jeudi, c'était CSA Ennemi.
Oui, Zoé Sfès vous en a parlé cette semaine. Le CSA a été une fois de plus chahuté cette semaine avec l'annonce du Conseil d'État qui vient de forcer le CSA à réexaminer le passage en gratuit de la chaîne LCI. Eh bien, pendant ce temps-là, Pure Média nous racontait hier que quelque part en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, Radio Bonheur n'était pas contente du tout.
Il y a une radio qui s'appelle Radio Bonheur.
Oui, Radio Bonheur n'obtient pas, elle existe depuis 10 ans, et elle n'obtient pas de nouvelles fréquences sur la bande FM, alors qu'elle a déposé 62 demandes de nouvelles fréquences. La radio a donc décidé de frapper fort et de faire part de son mécontentement en musique. La chanson de la Fronde, baptisée le CSA comme la FIFA, est signée par un groupe d'humoristes bretons, les Glochots.
Radio Bonheur, le CSA, pour ton malheur, il ne t'aime pas. Radio Bonheur, ne t'en fais pas, tes auditeurs, ils sont tous avec toi.
Ça sera le tube de TF1, j'ai l'impression.
Ça va être le tube de la fête de la musique de Radio Bonheur.
On se retrouve lundi pour la suite de ce journal de la culture.
Avec Zoé, et on pourra le réécouter. En attendant, pendant 1000 jours, sur le site de France Culture.
Et on peut aussi le podcaster.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Légende avec vous, Géraldine Chaplin, actrice, un parcours devant la caméra qui commence à l'âge de 8 ans avec Les Feux de la Rampe, réalisé par votre père en 52, puis Docteur Jivago, de nombreuses collaborations avec Carlos Saura, Robert Altman, on vous a vu chez Claude Lelouch, Pedro Almodovar, Alain René, Jacques Rivette, dernièrement Valérie Donzelli pour Marguerite et Julien, qui a été présentée lors du dernier Festival de Cannes et dont la sortie, on vient de l'apprendre aujourd'hui d'ailleurs, sera décalée de septembre à décembre. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche de Dolores des Arenas, de Laura Amelia Guzmán et Israël Gardenas. L'histoire, c'est celle d'Anna, une femme d'âge mûr qui s'est installée en République dominicaine à Las Terrenas. Et elle vit depuis 3 ans une relation amoureuse avec une jeune dominicaine qu'elle espère emmener en France. De son côté, cette jeune fille vit de prostitution occasionnelle, rêve d'Europe et a un petit ami qui vivote sur l'île. Juste une question d'ambiance.
I'm very much in love with a Dominican woman.
How old is she?
I don't know. She's younger than me.
Hey! Salut, mon petit gars. Ça va? C'est mamie. T'as fait quoi? Un gros caca boudin, mes petits cochons. Il est là, ton papa?
When do you leave?
Probably very, very soon. I think that might be in the cards. J'ai vraiment pas envie de partir.
Then don't.
Ouais, mais...
Oui, mais... Vous avez obtenu le prix de la meilleure actrice au Chicago International Film Festival pour ce film qui sortira en France le 28 août et qui est projeté en avant-première demain au Luxor à Paris dans le cadre du festival Différentes 8, l'autre cinéma espagnol. À ce sujet d'ailleurs, comment vous comprenez cet intitulé l'autre cinéma espagnol, vous qui avez connu le cinéma de Carlos Saura, puis dernièrement aussi celui de Pedro Almodovar. Ça veut dire quoi pour vous l'autre cinéma espagnol, Géraldine Chaplin?
Mais à l'époque, c'était l'autre cinéma espagnol. Carlos Saura, c'était un jeune mettant en scène qui promettait, qui avait du talent, qui promettait, voilà. Et Almodovar, bon, j'ai travaillé avec lui, il était bien plus consacré. Mais ici, l'autre, je me demande, je ne sais pas, j'ai envie de voir ça, j'ai envie.
Manfarine.
Le film est très peu dialogué, il alterne de longues scènes de plage, très solaires, de marches d'ailleurs sur la plage aussi, de danse en boîte de nuit, filme les corps au plus près, y compris le vôtre. Le premier plan d'ailleurs dans lequel vous apparaissez retarde le moment où le spectateur va reconnaître votre visage, puisqu'on vous filme longuement sous l'eau, en train de nager, en maillot de bain. Est-ce que c'est la première scène que vous avez tournée, Géraldine Chaplin, pour ce film-là?
Non, c'était pas la première scène. Non, la première scène, je me souviens pas. Mais...
Quels étaient les enjeux de cette scène-là en particulier, cette scène de nage, cette longue scène sous l'eau?
C'était un peu dangereux parce que l'eau, il y avait plein de choses dedans, de choses qui grattaient, qui blessaient. Et puis, c'était la caméra, ils n'avaient pas une caméra qui allait sous l'eau, donc il fallait en trouver une. Enfin, c'était compliqué. Mais c'était très beau. Et dans le film, c'est très beau. On voit justement cette main blanche, ridée, vieille, et cette peau magnifique, jeune, basanée. Et on comprend tout dans ce premier plan, je pense.
Justement, à propos de cette scène où l'on voit cette peau d'une femme d'âge mûr, je me rappelle que vous aviez dit dans une interview, c'était dans La Vie Actuelle, vous disiez « La Vie Actuelle étant très triste pour une actrice qui vieillit, je lui conseille le suicide à 37 ans ».
Oui, vous vous souvenez avoir dit ça? Non, je crois que c'était 25 ans.
Ah, 25 ans alors.
28 ans, oui. Mais j'ai survécu.
Oui, manifestement.
Et les rides, et grâce aux rides, j'ai beaucoup de travail en ce moment, je fais tout. Maintenant, j'ai passé au film de terreur, mais... Mais j'ai fait toutes les gentilles grand-mères, les méchantes grand-mères, ouais. les grand-mères assassins, un peu de tout. Et après, maintenant, j'ai eu ce cadeau, donc ce film Dolores de Arena, qui est vraiment un cadeau extraordinaire. Et maintenant, je repasse aux terreurs. Mais je travaille beaucoup grâce aux rides. Oui, parce que je n'ai pas fait d'opération. Donc, quand ils veulent quelqu'un de très, très vieille, ils me prennent.
À ce sujet, à propos de la façon dont vous êtes filmé, est-ce qu'il y a des chefs opérateurs qui vous ont marqué, des directeurs de la lumière, qui vous ont particulièrement bien éclairé dans votre parcours de cinéma? Et je pose la question à la femme d'un chef opérateur et d'un peintre chilien, Patricio Castilla, qui est derrière nous d'ailleurs.
Bah oui,
est-ce qu'il y a des chefs opérateurs qui vous ont magnifié?
C'est lui, il faut que je dise ça, il est là.
D'accord.
Sinon, il me frappe après.
Dans quel film?
Dans La Viuda de Montiel, c'est un film basé sur une nouvelle de García Márquez. Et c'est fait au Mexique, ça a été mis en scène par Miguel Littin. C'était dans l'année, je ne sais pas dire en français, 79 on dit en Suisse. Oui, 79.
79.
Voilà. C'était en l'année 79.
Et dans ce parcours, est-ce qu'il y a eu d'autres chefs opérateurs qui vous ont marqué par leur travail sur vous et avec vous?
J'aime toujours les chefs opérateurs. Je crois que ça fait partie d'être actrice, il faut séduire le chef opérateur.
Avant de séduire le réalisateur. Manou.
Alors justement, la caméra vous filme avec beaucoup de douceur et de manière générale, c'est presque chorégraphique. Les personnages d'ailleurs dansent beaucoup, marchent, s'étendent, attendent, se touchent. Votre personnage, comme celui de la jeune fille, croise leur solitude, cherche leur place pendant tout le film. Et pour autant, c'est aussi un film qui parle du tourisme post-colonial, du tourisme sexuel. Comment est-ce que les deux réalisateurs, qui sont deux jeunes réalisateurs, nés en 1980 tous les deux, enfin jeunes, pour moi c'est jeune.
Pour moi aussi.
Comment est-ce qu'ils vous ont...
Pour tout le monde autour de cette table.
Non. Comment est-ce qu'ils vous ont présenté le film?
Ils avaient fait un film extraordinaire qui s'appelle Jean Gentil. Et je l'avais vu. J'étais jury, je ne sais pas où, quelque part. Et puis, je l'avais vu, je l'avais aimé, j'avais adoré. Et puis, j'avais commenté beaucoup. Et ils se sont mis en contact avec moi. Ils ont dit, mais est-ce que vous voulez travailler avec nous? Quoi? Je dis, mais oui! J'attendais pas ça. Et ils avaient les droits d'un roman qui s'appelle Dollars de sable, de Jean-Noël Pancrassi, qui est un homme qui avait vécu justement à Samana, dans cet endroit, et qui avait eu un jeune amant, qui était un motoconcho, que lui avait sa femme et ses enfants, mais il se prostituait aussi parce que c'est la seule façon, au fond, de gagner sa vie là-bas. Et quand ils m'ont contacté, j'allais faire le rôle d'une femme italienne qui s'en allait avec le jeune homme qui avait le cœur de passeport. Et comme je ne parle pas italien, ils ont dit, oh ben, et puis si on changeait le vieux dans une vieille et le jeune homme dans une jeune fille, qui était une idée absolument extraordinaire, parce que vraiment il y a une différente sensibilité entre l'amour dans le même sexe masculin et féminin. Et surtout avec la grande différence d'âge.
Charline Chaplin, dans ce film, on vous entend chanter, danser. Dans Dolores de Arena, vous dansez aussi beaucoup d'ailleurs. Et c'est par là que vous commencez à l'âge de 15 ans, par la danse au Royal Ballet School de Londres, soutenu par vos parents. Et à 15 ans, dites-vous, votre père ne voulait plus que vous restiez à la maison et trouvait que vous aviez une mauvaise influence sur vos frères et sœurs. C'est-à-dire, donc la danse le débarrassait de vous, mais pour quelle raison? C'était quoi cette mauvaise influence?
Moi, je ne trouve pas du tout que j'avais mauvaise influence. Ni mes sœurs et frères pensent ça, mais lui, il pensait ça. Et je ne sais pas d'ailleurs si... Il m'a fiché dehors ou si je suis partie. Je sais que je suis partie. mais c'était, j'étais peut-être envoyée.
Il était réticent au fait que vous deveniez actrice. Pour quelle raison ?
Parce qu'il connaît, il connaissait les dangers. Être acteur, c'est terrible. Il faut d'abord savoir accepter le refus, avant tout. Parce que tu peux aller à 100 castings, et si tu as vraiment de la chance, ils te disent oui pour un. Et donc, il faut avoir aussi la peau pas du tout très fine. Il faut avoir parce que notre instrument, c'est notre sensibilité. Donc, il ne faut pas que ça te tue qu'on te dise non. Et il connaissait bien les dangers.
Marion Sarraud, on reviendra tout à l'heure sur votre parcours. Je sais que vous avez été actrice à vos débuts, hein, pour Romer, pour Truffaut, pour Godard. Vous avez arrêté. Les refus, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas accepter.
Bien, écoutez, moi, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai fait la Rue Blanche, conservatoire, enfin, assez classique. Et puis, à la fin de mon parcours de la Rue Blanche, j'ai eu un professeur qui m'a dit « Il faut que tu arrêtes ce métier ». Alors, c'est très, très difficile parce qu'il faut encaisser ça. Et il m'a dit « Non, non, pas du tout. Je pense qu'un jour, tu seras une bonne actrice ». Mais tu seras incapable d'attendre derrière un téléphone. Il dit il faut que tu sois maîtresse de ta vie et non pas attendre le désir des autres. Il m'a rendu un excellent service parce que c'est vrai que je pense que je me serais complètement étiolée et merci à lui.
Vous avez dû attendre à quelques moments de votre carrière, Géraldine Chaplin.
Quand j'étais plus jeune, oui. Maintenant que je suis vieille, j'attends presque pas.
Maintenant, tout va bien.
Manu. On parlait de danse, Géraldine Chaplin, à l'instant. Et de danse, il en est question dans le montage qu'a réalisé Thomas Beau.
C'est pas ça, c'était moi, je dois me croyer.
Tommy.
Ah, si.
Peut-être que je dois voyager. Alors, je ne pourrai pas venir te voir toutes les semaines. Parce qu'à Genève, on m'a proposé une création, une chorégraphie qui me fait palpiter. J'ai une super idée pour un ballet. Il s'appelle L'étranger.
Mommy, how are you?
My sweet potato. Au revoir. Goodbye, my sweet and spatoots and my sweet potato choukinolette choukinolettina. Oui, chérie Bibi. Prends soin de toi.
Et que passe si te muerdo otra vez por aquí?
Chaplin qui se cache les yeux. On a reconnu Docteur Jivago de David Lean, Cria Cuervos de Carlos Saura, Les uns et les autres de Claude Lelouch, Parle avec elle de Pedro Almodovar. On vous a entendu chanter, on a entendu qu'il était question de danse et vous dites que c'est la danse qui vous a abandonné, c'est-à-dire ?
Oui, la danse m'a abandonné, c'était mon premier amour. J'étais tellement passionnée de la danse et j'étais dans ma tête, je dansais très très bien.
Mais dans votre tête ?
Oui, mais le corps ne suivait pas et pour une danseuse, c'est un peu compliqué. Quand on danse seulement bien dans la tête. Le corps, c'était pas... Donc, la danse m'a laissé tomber, c'est-à-dire j'ai plus trouvé de travail. Et c'est là que j'ai décidé de faire la chose qui me semblait être la plus facile au monde, c'est-à-dire, avec mon nom, essayer de travailler dans le cinéma.
Avec votre nom. Marion Sarraud.
Quelle modestie, moi je suis absolument ébahie. Je disais, je regardais Géraldine et je disais, elle est comme un... Vous savez, comme un gâteau cuit à point. Mais cuit à point, parce que vraiment... Non, non, c'est
pas brûlé, cuit
non,
à point.
Elle a tous les ingrédients qu'il faut. Et je pense que la maturité chez une actrice, c'est une des plus belles choses qui soient. Et se refaire faire le visage, c'est une bêtise absolue. Parce que moi, je regarde son visage, je dis, je peux lire plein de choses sur elle. Et moi, je l'engage demain. Hein.
Vous voyez, vous avez même trouvé encore... Non, mais elle a trop de choses à faire. Vous, le nom justement de Géraldine Chaplin, ça vous évoque quel film, quelle période?
Docteur Jivago, évidemment, parce que ça, c'est Carlos Saura que j'ai adoré avec passion. Mais pas du tout, alors, pas du tout Charlie, pas du tout. Absolument pas du tout son papa, c'est elle, elle à part entière. Et je vous dis, Docteur Jivago, bon, pour moi, c'était un film miraculeux et elle était miraculeuse dans le film.
Et pour autant, elle est bien la fille de son père. Justement, à ce sujet, quand on filme Geraldine Chaplin, généralement, c'est qu'on a aussi filmé la fille de son père. La fille aussi d'un cinéaste. Quand est-ce que vous avez cessé de voir ça dans les yeux qui vous filmaient? Qu'on ne filmait plus la fille de Charlie Chaplin?
Jamais.
Jamais, ça continue.
J'espère que ça n'arrivera jamais. Je me sentirai terriblement déprotégée. J'adore voir que les gens, ils adorent mon père. Parce que si c'est pas seulement l'homme le plus bon, l'acteur le plus génial, le metteur en scène le plus génial du monde, mais c'est aussi l'homme le plus aimé. Charlot, il est tellement aimé. Alors voir cet amour dans les gens avec qui je travaille, l'amour pour lui, alors c'est une ombre très agréable.
Manou.
Je ne sais pas si on voyait ça sur le plateau quand il dirigeait ses acteurs. Hein. Quel directeur d'acteur est-ce qu'il était, vous, qui avez donc tourné dans Les Feux de la Rampe, mais aussi bien plus tard, je crois, dans La Comtesse de Hong Kong avec Marlon Brando, un tournage qui a été un petit peu difficile. Et vous dites que sur le plateau, c'était un chef strict et non un père aimant. C'est-à-dire.
J'ai dit ça?
Oui. Hein mais c'était peut-être il y a longtemps, vous avez peut-être changé d'avis.
Oui, c'est sûrement il y a longtemps. non, c'était un perfectionniste, ça c'est vrai. Et il avait une façon de faire la mise en scène qui était très drôle. Lui, il faisait tous les rôles. C'est-à-dire quand moi je l'ai vu diriger à Sophia Loren, alors lui disait, et tu fais comme ça, et lui il faisait le rôle de Sophia Loren. Mais il le faisait mieux qu'elle. Il était beaucoup plus Sophia Loren que Sophia Loren. Il était beaucoup plus Marlon Brando que Marlon Brando. Alors des fois, les acteurs, ils se découragaient parce qu'ils n'arrivaient pas à être aussi eux-mêmes que lui.
Autre figure comique avec qui vous avez tourné, c'est Louis de Funès sur un arbre au perché. Ça s'est bien passé avec lui?
Ça s'est bien passé, je l'adorais tellement. Et à l'époque, on ne l'aimait pas beaucoup en France. Quand j'ai dit que je vais tourner avec Louis de Funès, ils me disaient, les gens étaient un peu snob, ils trouvaient ça un peu pas très bien, un peu...
Populaire.
Oui, populaire, oui. Mais dans le mauvais sens, populaire, oui. Et il était génial, il me faisait rire sur le plateau, dans le tournage, dehors du tournage. Il était génial, cet homme.
Il vous parlait de votre père?
Non.
Jamais?
Non. Et mon père, quand j'ai parlé de lui, mon père a dit « je ne connais pas ».
Et c'est vrai ou pas?
J'oserais pas le dire.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son qui vous a marqué, Geraldine Chaplin, et voici ce que c'est. Qu'est-ce qu'on entend et pour quelle raison vous avez choisi ça?
Ça c'était mon deuxième choix. Ouais. Parce qu'ils ont dit, on va mettre ça à la radio, le son que vous aimez le plus dans votre vie. Le son que j'aime le plus dans ma vie, et c'est pas un son. C'est quand je suis en Suisse, chez moi, et je me réveille le matin, et je sais qu'il neige, mais j'ai pas besoin de regarder par la fenêtre. Il y a une espèce de manque de son qui est tellement... C'est le son de la... Je dis, mais je vais pas dire ça à la radio. Alors j'ai dit, mon deuxième son préféré, c'est un fou rire, parce que c'est contagieux, parce que j'adore.
Des fous rires, vous en aviez quand votre père faisait absolument n'importe quoi dans les restaurants?
Oui, des fous rires tout le temps. Oui, on avait tous des fous rires. On était obligés de rire aussi. Si on riait pas, c'était pas drôle.
Parce qu'il avait des espèces de tics hein, avec des poissons qu'il prenait.
Oui, il demandait des... constamment, il demandait truite au bleu, qu'il n'aimait pas beaucoup, le truite au bleu. Le truite au bleu, c'est une truite qui est mise vivante dans de l'eau, et alors elle est complètement tordue, elle te regarde. Et alors, ils servent ça sur un plat. Mais mon père, alors, il adorait, il levait le plat, il l'embrassait sur la bouche, à la truite, et il disait, Emma, Emma, ma chérie, ici, mais qui nous aurait dit que nous nous retrouverions ici? Et l'embrasser, et lui suçait l'œil. Et nous, on faisait, mais quel horreur! Oh, mais papa, arrête! Et on avait un fou rire, parce qu'après la cinquième ou sixième fois, on savait ce qui venait.
Rendez-vous, la chronique.
Geraldine Chaplin et Marion Sarraud, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du vendredi, une revue corrigée Et celle-ci, ça sera Point de vue.
Oui, c'est un hebdomadaire français consacré aux têtes couronnées, comme tout le monde le sait. Elle fait partie du paysage de la presse nationale depuis 1945. En effet, Point de vue a été fondé à la Libération, comme beaucoup de journaux de gauche. Par des anciens FFL, d'ailleurs, dont Marcel Blosten-Blanchet. En tout cas, c'est un journal populaire, hein, puisque son tirage s'élève à plus de 300 000 exemplaires, preuve que le sujet attire, les Français ayant, c'est bien connu, une tendance monarchique. Alors, Point de vue occupe dans le royalisme une tendance ouvertement orléaniste, c'est-à-dire que pour succéder à François Hollande, le magazine parie sur Henri VII plus que sur Louis XX. Pourquoi pas d'ailleurs, des têtes radicalement nouvelles hors du jeu politique traditionnel seraient peut-être préférables au retour de vieilles bobines usées. L'engagement du magazine éclate de mille feux dans sa passion pour les membres des différentes familles royales d'Europe, mais par une sorte de pudeur, qui est peut-être de l'élégance, la famille royale de France s'efface éditorialement au profit de monarques européens, généralement scandinaves, on verra pourquoi tout à l'heure. La branche Orléans revêt donc un statut quasi fantomatique, à peu près équivalent à la monarchie elle-même. Il y a peut-être aussi des intérêts financiers derrière cette prudence symbolique à voiler les Orléans, mais n'ergotons pas. À propos d'argent, notons que Point de vue ne vaut presque rien. À tous les sens du terme, me souffle un révolutionnaire sur ma gauche. Puisque son prix de 2,60€ est imbattable. Ces royalistes sont décidément plus proches du peuple que n'importe quelle feuille bobo. La moyenne d'âge, il est vrai, n'étant pas la même. La seule lectrice régulière que je connaissais est en feu, ma chère grand-mère. Le prix de Point de vue est cependant variable en zone euro, puisqu'il vaut plus cher, 3,60€ en Grèce. Ces gens-là se font toujours avoir. Ce numéro 3491 consacre un tiers de son volume au plus beau des contes de fées. Ce n'est pas du Charles Perrault, mais le mariage à Stockholm du prince Carl-Philippe de Suède et de Sofia Elkvist. Tous deux sont souriants, mais lui n'est ni une ancienne serveuse, ni un ex-mannequin un peu olé olé, comme le déclare sans embâche la directrice de rédaction qui n'est autre que Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Alors pour ce genre de presse, l'enjeu est toujours le même. Il faut promouvoir une image moderne de la monarchie, la déringardiser, sans jamais faire allusion au monde politique extérieur, ce qui est finalement assez rafraîchissant puisque les guignols qui nous régentent sont purement et simplement niés et dans un geste d'effacement quasi blanchotien. Au mariage, on écoutait Jean-Sébastien Bach et Rihanna. Cela dit, 30 pages sur des hétérosexuels aux cheveux bruns qui s'embrassent, c'est tout de même un peu barbant. Paris Match n'accorde très peu de place à l'événement et on pourrait tirer un axiome suivant. Un point de vue, c'est 2 cm² de Paris Match sur grand format. La mise en page a 3 armes pour faire passer la pilule, soit le roman photo avec des cases carrées pour les commentaires, soit la planche contact de parure de 9 Altesses Royales, soit la planche unique pleine page, dont la plus belle est la page 23, car entièrement muette, c'est l'effet affiche du couple, ils sont en train de s'embrasser. Tout ça est charmant, mais nous avance guère sur le dessin secret de Point de vue. Eh bien, le contraste est brutal, puisqu'après la noce, on se trouve téléporté, page 44, à Monaco, chez les frères Casiraghi, qui posent avec un financier monégasque, c'est-à-dire un homme qui est beaucoup plus riche que vous. Et quand je dis vous, ce n'est pas une deuxième personne. La Côte d'Azur apporte son lot de bling-bling avec Camilla de Bourbon-Sicile, son sac blanc à franges, son string et son petit tatouage sur l'aine. On peut y voir un couba contre les Bourbons. Du reste, à la cour d'Espagne, c'est pas tellement plus brillant, puisque le roi révoque le titre de sa sœur. Il faut dire qu'elle s'est mariée à un joueur de handball qui s'est avéré un escroc, un peu comme chez nous, décidément, ces gens-là n'ont pas les mains propres. Mais du coup, on comprend mieux l'architecture éditoriale de Point de vue, qui a sur son échiquier 2 images concurrentes de la monarchie. L'une, olé olé, pour reprendre le terme de tout à l'heure, et bien c'est un peu celle du Sud. L'autre, digne et noble vraiment, enfin vraiment noble, celle des pays du Nord. Un Point de vue joue discrètement avec le double visage très recommandable de la Suède, de Danemark, etc. et moins propre des Latins, pour rappeler que tout diamant a ses impuretés, ce qui permet de rendre la monarchie moins inhumaine. Par ailleurs, il y a aussi un reportage sur Gérard Garouste en fin de magazine. Point de vue est décidément plus dangereux qu'il n'y paraît.
Merci Thomas, on se retrouve pour vendredi prochain avec... C'est quoi le programme vendredi prochain?
Alors le vendredi prochain, eh bien, vous croyez que je vais vous le dire?
Patience, quel teasing.
Le rendez-vous.
T'étais où? Ça fait 1 heure que je t'appelle.
J'étais au fond du jardin. Je me suis endormie.
Et toi, t'étais où encore?
J'étais parti me balader un peu. Et puis... Après, je suis tombé sur Lucien.
Et puis on connaît la suite, hein. Apéro au bistrot, soirée dans le caniveau. Moi, je commence à en avoir assez de vous aller venir à tous, hein, sans prévenir personne. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête dans cette maison. Quand on entend ce qu'on entend à la radio, je vais vous dire.
Plateau, la femme qui travaille avec vous, Marion Sarraud. Metteuse en scène au théâtre, réalisatrice d'un nombre incalculable d'heures de télévision. Ça passe par les émissions de variété de Marité Gilbert Carpentier dans les années 70, L'île aux enfants, Les visiteurs du mercredi, des séries télévisées comme Le Gerfaut, jusqu'aux héros récurrents des 2 dernières décennies, Les Cordiers, Un jugé flic ou Une femme d'honneur. Mardi soir, France 3 va diffuser votre nouveau film de télévision, Le premier été. L'histoire, c'est celle de 2 sœurs, jouées par Romane Boringer et Marianne Bassler, qui reviennent dans la maison de leur grand-mère dans l'Ain afin de la vider avant sa mise en vente. Les 2 femmes se souviennent alors de leur été 87. passé chez leurs grands-parents, joué par Jean-François Thévenin et Hélène Vincent, qu'on entendait dans la bande-annonce tout de suite. Un été adolescent marqué bien sûr par l'éveil des sens et un drame dont elles n'ont jamais parlé. Alors c'est l'adaptation d'un roman d'Anne Persin, scénarisé par Sylvie Granotier, qui était également actrice et comédienne, enfin écrivaine et comédienne. Comment ça s'est passé cette fois? Vous avez travaillé avec la scénariste ou comme dans d'autres séries télévisées ou téléfilms, vous découvrez le scénario et puis vous tournez vous-même sans avoir à travailler avec eux?
Non, c'est la productrice qui un jour m'a appelé et m'a dit voilà, j'ai un texte à te proposer, est-ce que ça t'intéresse ce scénario? Alors je l'ai lu, j'ai pleuré vraiment parce que l'histoire est, j'allais dire, au-delà de cette espèce de chronique familiale, c'est une histoire que je trouve vraiment tragique, dramatique, très très difficile, très dure. Et j'ai appelé Sylvie Carnotier tout de suite, on a beaucoup parlé, et puis je lui ai proposé certaines
modifications
dans le texte, dont la scène d'amour entre les deux jeunes, voilà. Et Sylvie est quelqu'un de très très ouvert, on a beaucoup beaucoup travaillé pendant plus de 2 mois ensemble, voilà, Et puis ce film, pour moi, est un film important, vraiment.
Le film sera diffusé à une heure de grande écoute hein, sur oui. France 3. Et ce qui est surprenant, c'est que vous filmez vraiment de façon très frontale les corps. Notamment, on voit par exemple un jeune homme entièrement nu, ce qui est assez rare sur France 3 à cette heure-là. Ou encore les pertes vaginales d'une adolescente de 16 ans après un premier rapport. On connaît hein, généralement la frilosité des conseillers et directeurs de fiction à la télévision. Comment de tels partis pris de mise en scène ont-ils été perçus, Marion Sarraud?
Eh bien, tout d'abord, c'était écrit au scénario.
Donc, oui, mais ça...
écrit au scénario et en principe, tout le monde l'avait lu. Donc, moi, c'était mon argument suprême. J'ai dit, de toute façon, je tourne aussi ce qui est écrit d'une façon très hypocrite, hein, parce qu'on a rajouté des choses avec Sylvie. Et puis, je vais vous dire, la nudité, surtout de ce garçon qui est magnifique... J'allais dire, j'avais pas envie de tricher, quoi.
Ils
l'ont très très bien perçu. La seule chose qui est, une petite anecdote, c'est qu'à un moment, il y avait un plan où le garçon se relevait de l'herbe, mais il était nu, mais de dos. Et à un moment, il s'essuie les fesses avec ses mains, comme ça. Et la personne, donc, qui s'en occupe sur France 3, m'a simplement dit, avec beaucoup de pudeur, m'a dit, tu n'es pas obligé de le couper, mais ça serait peut-être pas mal que tu l'enlèves. Et voilà, et sinon, c'était une ouverture totale, j'ai eu aucun problème. Je pense qu'il y a aussi la manière de faire, la manière de montrer. Je veux dire, moi j'ai montré ça tout cru, tout net, ce sont des jeunes gens, voilà, et puis j'ai pas eu envie de tricher. Et je pense qu'aussi, de ce côté-là, ça a un certain impact quand on triche pas.
Géraldine Chaplin, est-ce que vous, de votre côté, il y a eu un certain rapport à la nudité dans le cinéma? Est-ce que vous avez eu à tourner des scènes nues? Est-ce que ça a été difficile
oui,
pour vous?
Oui, dans le temps, oui. Ouais.
Et pour vous, c'était facile ou ça demandait une certaine préparation?
Donc, s'il faut être nu, il faut être nu.
C'est votre ami, c'est
pas moi,
c'est le personnage.
C'est la femme que j'interprète, oui.
Benoît Laviane.
Marion Sarraud, tout à l'heure, on évoquait vos débuts comme comédienne auprès de Truffaut, Romère, Godard, qui ont formé votre goût cinématographique. C'est ce qu'on peut lire dans votre bio. Qu'est-ce que vous avez appris avec eux?
Bien, écoutez, d'abord, je travaillais, les Cahiers du cinéma, ça se passait comme ça, c'était une grande pièce, il y avait une grande table au milieu, moi j'étais assise avec Rivette, Godard, Truffaut, Chabrol, etc., je me rendais pas compte du tout avec qui j'étais, pas du tout, hein. Moi à l'époque j'avais 20 ans, ils me donnaient leurs textes que je corrigeais, auxquels je ne comprenais absolument rien, ça c'est évident, ils me disaient, corrige certaines choses, je dis, je veux bien, vous me laissez faire, oui, mais je comprends rien, c'est pas grave, donc je corrigeais. Et surtout, ils m'ont initié au cinéma. C'est-à-dire qu'ils m'emmenaient au cinéma régulièrement, au MacMahon, voir les Kurosawa, les Mizoguchi, les Vajda, les grands polars américains, et un cinéma qui s'appelait Napoléon, qui était en haut de l'avenue de la Grande Armée, où il y avait tous les westerns, il y avait les péplums, etc. Et ils me disaient, tu vas voir ça. Et ils me demandaient presque un compte-rendu après. C'est comment tu as compris, qu'est-ce que tu as vu, etc. Et donc, j'allais dire, je baignais dans la marmite, hein, j'allais dire comme Astérix. Donc c'était vraiment un moment. J'ai passé 3 ans avec eux. C'était simple, c'était facile. Il n'y avait pas de prise de tête. Je vous dis, j'avais Godard qui était assis là. À ma droite.
Avec qui vous avez tourné dans Une femme est une femme.
Oui.
Truffaut, c'est pour Tirer sur le pianiste.
Tirer sur le pianiste.
Et Le signe du lion pour Romère.
Le signe du lion, le premier. Romère, je crois qu'on avait aussi peur l'un que l'autre. Parce que moi, c'était mon premier film, puisque j'étais apprentie comédienne. Et lui, c'était son premier film. Et je pense qu'on avait aussi peur l'un que l'autre. C'était très amusant.
C'est un proche de François Truffaut, d'ailleurs, Claude de Givray, un homme de cinéma, qui a eu l'idée, dans le milieu des années 80 à TF1, juste avant sa privatisation, de créer à la télévision des collections de films de série B. Vous connaissez, je sais, Claude de Givray. Vous avez été sa
stagiaire script.
Au cinéma. Oui. Comment vous avez compris son choix au milieu des années 80?
Écoutez, très honnêtement, dans ces années-là, je m'en souciais pas beaucoup. Moi, vous savez, j'étais variété. Moi, j'étais surtout variété.
Vous filmiez pour les Carpentiers.
Oui, c'est ça. Je baignais dans l'atmosphère des Carpentiers. Moi, tout ça, ça m'intéressait pas vraiment. C'est-à-dire que j'y pensais même pas. Donc, à la fiction, j'y pensais même pas. Moi, c'était les variétés, la variétoche, et puis c'est tout ce qui m'intéressait. Puis un jour, quand on m'a demandé de réaliser, donc j'ai reconsidéré les choses. Et lui, je l'ai vu différemment, surtout qu'il avait été mon patron quand j'étais petite fille.
Benoît.
Et Claude de Givray, donc, qui était proche de la Nouvelle Vague, va développer vraiment le héros récurrent qui est tant décrié aujourd'hui à la télévision. Les Navarro, Julie Lescaut, Femme d'honneur. Vous comprenez aujourd'hui les critiques que les scénaristes, notamment, c'est venu beaucoup des scénaristes, ont pu faire à cette forme de fiction télévisée?
Pas du tout. Alors, c'est clair, net, pas du tout. Claude de Givray a lancé un genre que je trouve absolument exceptionnel, formidable, cette espèce de récurrence. J'allais dire, vous savez, on a eu Eugène Sue, on a eu tout ça. Tout
feuilletonnant, oui.
Voilà. Feuilletonnant, les gens ont adoré. On a fait sur La Femme d'honneur, le premier épisode, vous vous rendez compte, on a fait 15 millions de téléspectateurs. Ça vous dit quelque chose, 15 millions? Les gens adoraient ça. Et en plus, c'était plus qu'honorable, j'allais dire.
Oui, mais à un moment donné, ça a formaté véritablement la conception, le travail, l'écriture des scénarios pour les séries télévisées.
Oui, mais bon, très bien, à un moment, il faut se débarrasser des choses. Quoi. Vous savez, c'est comme les enfants, il faut que ça grandisse. À un moment, on le renvoie dans la vie tout seul, avec ses chaussures aux pieds. Bon, ben voilà, c'est ce que doivent faire les scénaristes maintenant. Et ils doivent justement maintenant, je pense qu'ils ont été formés. Il y en a beaucoup qui ont été formés à cette école-là. Il était formé d'une façon extrêmement stricte, aussi bien sur le plan financier que sur l'écriture, parce qu'on savait très bien ce qu'il fallait faire. Et ces gens-là, maintenant, je comprends même pas, d'ailleurs, qu'ils critiquent le système et le genre, parce que je pense qu'on a beaucoup appris, on a déblayé, on a dégagé. Donc, maintenant, ils savent comment faire. C'est-à-dire qu'ils savent tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je trouve ça un peu malhonnête, d'une certaine manière, de critiquer cette époque-là.
Vous avez eu, Marion Sarrault, un statut très à part dans la télévision de ces années-là, dans les années 70-80, parce que vous étiez une des rares femmes à avoir un certain pouvoir, et en tout cas à tenir la caméra.
La première.
C'est la raison pour laquelle on vous a invité.
La première.
Comment étiez-vous perçu sur les plateaux, sachant que 80% des techniciens étaient des hommes, que ceux à qui vous aviez affaire dans les postes de pouvoir étaient des hommes? Qu'est-ce que ça a dû modifier dans votre rapport aux autres?
Alors, les gens avec qui j'ai travaillé par la suite, bon, comme j'avais été script et assistante avec cette équipe-là, tout d'un coup, je suis devenue patron. Parce que, bon, c'est pas péjoratif de dire qu'on est devenu le patron. Je suis devenue le patron et je me suis confrontée avec des gens absolument formidables et confrontée avec des gens abominables. Il m'est même arrivé, je suis devenue quelqu'un d'horrible. Très honnêtement, je vous dis, très autoritaire, ne supportant pas la critique. Vous savez, j'avais 32 ans à l'époque, c'était compliqué. Et il m'est arrivé de tomber sur des gens qui disaient, moi je disais je veux tel plan, il me disait non. Je lui dis pourquoi tu veux pas, parce que je le sens pas comme ça. Ben, je lui dis tu vires du plateau. Et je les sortais du plateau et on me disait, mais tu peux pas sortir un caméraman du plateau. Si je peux, je vais vous prouver que je peux le faire. Mais oui, mais c'était terrifiant. Mais vous savez, c'était terrifiant, mais en même temps, j'allais dire, obligée. Voilà, disons le mot, j'étais obligée d'être... à ce point, j'allais dire, autoritaire et épouvantable, et je le sais. Avec le temps, j'ai appris, si vous voulez, à m'imposer. Mais quand on arrive et qu'on débarque, on est tout jeune réalisateur, surtout à cette époque-là, hein, c'était quand même années 70. Une femme, il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont envie d'obéir, j'allais dire, à une femme qui en plus a 30 ans et qui s'amène avec ses gros sabots. Hein.
Ça vous inspire quoi, Géraldine Chaplin? Je vois que vous regardez Marion Sarrault.
Je veux voir le film. Oh, c'est un bonheur de vous entendre parler, mais, oui. Mais il faut faire un film.
Sur elle, bien sûr, oui, c'est elle, oui. La femme d'honneur, de toute façon.
Oui. Benoît. Justement, vous dites que c'est en passant par la fiction, dans les années 80, que vous avez, je vous cite, entamé un énorme virage vers une éthique du comportement, justement pour lutter contre ça.
En quoi la fiction vous a fait basculer?
Parce que, j'allais dire, le plateau, les variétés, ça va très vite. Vous êtes maître de rien. C'est-à-dire qu'un chanteur arrive avec sa chanson, c'est tout fait. Le scénario est fait, il est écrit, il est là. La seule chose, nous, notre travail, c'est de le filmer le mieux possible et essayer de raconter ces petites histoires avec des petits clips. Voilà. Ensuite, quand vous rentrez dans la fiction, vous avez 80 pages où il y a écrit « Madame Untel embrasse Monsieur Untel ». Et là, tout d'un coup, tout est à inventer. Tout est inventé. Alors, vous pouvez pas vous appuyer uniquement sur un chanteur ou une chanteuse ou un orchestre. Non, vous avez une équipe. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez une équipe, que seul vous pouvez plus travailler. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là à donner des ordres. C'est-à-dire que vous avez un chef opérateur, vous avez un caméraman, un ingénieur du son et surtout des acteurs. Et ces acteurs, votre travail est de vraiment montrer qui ils sont. Et là, tout d'un coup, vous vous adoucissez parce que vous vous rendez compte que si vous vous adoucissez pas, ben vous ferez du mauvais boulot. Parce que vous devez aimer les gens avec qui vous travaillez profondément et tenir compte d'eux en permanence, de leurs soucis. Vous savez, des fois, quand j'arrive sur un plateau, la première chose que je dis à mes techniciens, je leur dis, quoi qu'il vous arrive dans la journée, venez me voir, parlez-moi, dites-moi quel est votre problème, on va s'arranger. Et il m'est arrivé de ne pas faire l'heure supplémentaire que j'avais à faire, parce que le matin, un technicien m'avait dit « ma femme est malade, il faut qu'à 18h, j'aille chercher mon bébé ». Avant, j'aurais jamais fait ça. J'aurais préféré faire mon heure supplémentaire plutôt que de faire ça. Mais je me dis, je sens que ces gens sont heureux. Ils sont heureux, ils sont bien. Moi, je suis très heureuse qu'ils soient bien. Et puis, une dernière chose, j'autorise personne à m'enlever mon plaisir.
Géraldine Chaplin, est-ce que vous avez, dans votre parcours de comédienne, eu des tournages difficiles avec des metteurs en scène contre lesquels vous avez dû travailler ?
J'ai eu de la chance, non, ça ne m'est jamais arrivé. J'essaye d'être, dans mon métier, comme de l'argile. Et j'aime que le metteur en scène me sculpte. Et j'adore quand je lui fais plaisir. Oui.
Donc il n'y a jamais eu de travail dans les relations de conflit, parce que ça peut être aussi une forme de travail.
Oui. Non, j'en ai entendu parler beaucoup, mais je n'ai jamais vécu. J'ai fait 150 films et je n'ai jamais eu une mauvaise expérience. La mauvaise expérience, c'est après quand le film sort et c'est une merde.
Oui. Quand vous avez travaillé, Marion Sarraud, avec Les Maritiers et Gilbert Carpentier, vous aviez donc le choix du décor, des lumières, du découpage des chansons, de la chorégraphie, enfin vous deviez vous imposer sur tout ça. Il y a quand même un style que vous avez imposé à la télévision à ce moment-là ?
Je ne m'en rendais absolument pas compte. Je pense que, vous savez, je pense que tout créateur, qu'il soit acteur, metteur en scène, scénariste, etc., il a quelque chose dans la tête qui n'est pas forcément la chose qu'aura la personne d'à côté. Donc, ce style, c'est pas quelque chose de prémédité. J'allais dire, c'est quelque chose qui vous correspond. Moi, vous savez, il m'est arrivé plusieurs fois de dire qu'est-ce que je vais faire là. Vous savez, je regardais ma télévision noire. Je regardais cet écran tout noir et je me disais qu'est-ce que j'ai envie de voir là. Et puis voilà. Puis finalement, l'inspiration vient. Vous savez, je crois qu'on se met dans un état d'inspiration. C'est très important cet état d'inspiration et on se rend compte au bout d'un certain moment que c'est votre inspiration, c'est pas vous quoi, que ça vient d'ailleurs et ça, je m'en aperçois de plus en plus avec l'âge et c'est ça qui donne un style et tout d'un coup les gens disent je reconnaissais tes émissions. Oui, bon, mais bon, et alors ? Voilà, c'est très bien, pas plus.
Et L'île aux enfants ? Tout à l'heure, en préparant l'émission, vous étiez sur le point de nous dire quelque chose.
Alors, L'île aux enfants, je vais vous dire, ça a été une période absolument formidable, parce qu'à l'époque, ma fille avait 6-7 ans, et elle venait jouer dans le jardin avec les
Casimir, Julie et compagnie.
Et je suis partie faire un film en Suisse, avec des techniciens suisses, et ces gens-là qui connaissaient pas forcément ma carrière m'ont dit qu'est-ce que tu as fait, quels sont les films que tu as fait. Alors j'ai commencé à énumérer, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ah oui intéressant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, très bien, j'ai fait L'île aux enfants, ouais. Et tout d'un coup ça a été une espèce d'explosion, mais tout d'un coup c'était vraiment international, ils se sont mis à hurler et à chanter L'île aux enfants, alors que tout ce que j'avais, pourtant j'avais fait des choses
pas si mal.
Voilà. Mais bon,
à côté de
qui
ça.
Semblait plus éducative, plus peut-être performante. Mais les enfants, c'est incontournable, quoi.
Comme à tous nos invités, eh bien, on vous a demandé un son. Le voici, Marion Sarraud.
Mmh.
signification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
Alors, ce musicien qui est un grand, grand musicien qui s'appelle Austin Delahi, est entré dans ma vie d'une certaine manière. C'est-à-dire, j'ai une amie que j'aime beaucoup, italienne, et qui un jour m'a fait écouter cette musique. Et je ne sais comment exprimer ce que j'ai ressenti, l'effet que j'ai ressenti par rapport à cette musique. Je l'écoute presque tous les matins. Ça me donne une espèce d'énergie, mais absolument énorme, une intensité, parce qu'il n'a pas écrit que des morceaux comme ça rapides. Il a écrit des morceaux qui sont extrêmement doux et qui vous amènent à méditer.
Vous avez fait un documentaire sur lui.
J'ai fait un documentaire sur sa vie et son œuvre. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que du mois d'août au mois de janvier, au Met, vous savez, au Met à New York, au Metropolitan Museum, il y a eu une exposition, une grande salle d'exposition avec sa vie, son œuvre. Et cet homme qui, tout d'un coup, était d'une discrétion absolue, qui n'a jamais joué en concert, qui considérait que la musique, pour lui, était une communication avec Dieu. Il y a eu... Bon, il est décédé en soi, il y a quand même pas mal d'années. Et puis, il y a eu cette exposition qui, tout d'un coup, a amené plus de 100 000 personnes en 6 mois. Et qui a été la stupeur générale. Et les gens commencent à vraiment connaître qui est Austin Delahi. On a quand même 12 CD de lui, parce que c'est ce que les gens ne savent pas. Et cette exposition au Met, je pense, va à une grande ouverture. Cet homme qui vraiment compte dans ma vie, dans la mesure où... j'allais dire, ça nourrit ma vie. Ça nourrit ma vie. Et j'allais dire même mon âme.
Il l'embrassait sur la bouche, à la truite. Et il disait,
vous devez aimer les gens avec qui vous travaillez profondément.
Merci à nos invités. Géraldine Chaplin, Dolores de Arena sera projetée en avant-première et en votre présence demain dans le cadre du festival Différentes 8, l'autre cinéma espagnol au cinéma Luxor à Paris. La sortie en salle, ce sera le 28 août avec un titre français, Les Dollars des Sables. Marion Sarraud, Le Premier Été, ce sera diffusé mardi prochain à 20h50 sur FR3. Sur France 3. Ça, c'était pour aujourd'hui. Ah non, on ne peut plus rajouter. Hop, c'est fini. La désannonce, et c'est tout.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manon Farine, Benoît Lagan, Elsa Béranger et Aïssat Windoy. Merci à Aurore Lagier qui nous a accompagnés toute cette semaine et qui termine son stage ce soir. Journal de la culture Zoé Sfez, chronique Thomas Clair, à la prise de son Clément Daté et Alex Dang, réalisation Thomas Beau.
Tout ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Moi, je veux faire des kilomètres, des milliers de kilomètres. À pied, en avion, en train, n'importe.
Que du silence, juste le bruit du vent.
Et je voudrais pas de gosse, être femme célibataire, sans enfant. Quoi, on s'en fout, c'est un jeu, on peut dire ce qu'on pense.
C'est exactement ce que l'on fera demain. Eh bien, il faudra attendre lundi une émission cinéma et chorégraphie avec Mathilde Seigné et Lia Rodriguez. Il est 19h55, vous êtes France Culture, on sait bien.